Préparez-vous à cœur à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. Préparez-vous.
Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie.
C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. L'heure de la vérité, c'est votre émission d'exhortation, d'édification et de méditation profonde. L'air de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans complaisance, sans compromis et sans concession. Connectez-vous toujours très 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 nombreux et recevez la délivrance et recevez la vie. L'air de la vérité, c'est aussi votre émission de la solution. Ah, vous. Tous vos problèmes, la solution se trouve uniquement en Jésus-Christ et nulle part ailleurs. Connectez-vous très très nombreux et recevez la délivrance, recevez la vie. Surtout, n'oubliez pas de passer le message autour de vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen.
Vous ne vous êtes pas trompés, vous tous, qui êtes à l'écoute et qui êtes en contact avec nous. Et comme vous l'avez suivi, vous êtes bel et bien à l'écoute de votre très chère émission, l'heure de la vérité. Que le Seigneur soit vraiment béni pour cet énième rendez-vous que nous avons avec la vérité biblique. Pour vous servir une fois de plus, comme toujours, juste à mes côtés une fois de plus, notre bien-aimé dans le Seigneur, Frère Yannick, est là. Et quant à moi, je suis, je reste et je demeure toujours votre très humble serviteur. Où que vous soyez, particulièrement vous qui êtes si nombreux à nous écouter en prison, soyez vraiment bénis dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus. Je pense particulièrement à cet auditeur qui m'a envoyé une lettre de la prison et avec qui je me suis entretenu ce jour. Sois vraiment béni, mon frère, et prends courage. Et particulièrement pour vous tous qui êtes en prison, je voudrais vous dire que dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 21, il est écrit: Même si tu as accepté le Seigneur en tant qu'esclave ou prisonnier, si tu peux devenir libre, profite-en. Même si tel n'est pas le cas, sache tout de même que si tu as accepté le Seigneur, tu es devenu un affranchi du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la vraie liberté, c'est la liberté que le Christ donne. Une fois de plus, mesdames et messieurs, recevez tous nos sincères et chaleureuses salutations dans le merveilleux et magnifique nom du Seigneur Jésus-Christ. Yannick, mon frère dans le Seigneur, une fois de plus, tu as honoré le rendez-vous de ce jour. Sois béni dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus.
Amen, bienvenue. Je vais profiter pour saluer tous ceux qui sont en train de nous écouter. Pour aussi dire que cette émission est là pour pouvoir aussi donner la santé à tous ceux-là qui sont malades dans tous les aspects, que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit moral. La vérité est là pour les satisfaire. Amen.
Amen. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous te consacrons ce moment. Nous voulons d'abord te dire merci. Tu as été avec nous jusqu'à cette heure-ci. Tu as veillé sur nos âmes. Tu as combattu pour nous. Tu nous as donné ton souffle de vie et tu nous as comblé de tes multiples grâces. Sois vraiment béni pour cela et reçois toute la gloire. Te consacrons ce moment. Bénis tout ce qui va se dire, tout ce qui va se faire. Bénis toutes ces oreilles qui sont ouvertes, Seigneur, pour pouvoir écouter ta parole. Merci, Seigneur, de te manifester. Merci de te glorifier. Merci de veiller afin que tout se passe sous le total contrôle de ta puissance. Que toute la gloire et les honneurs te reviennent pour tout ce que tu feras, même au-delà de nos prières. Amen.
Amen.
Comme promis, nous allons continuer à nous intéresser à certaines questions. Essayez à la lumière des Saintes Écritures de trouver des réponses. Oui, nous avons abordé une série d'émissions qui sont tout simplement des émissions consacrées aux questions et aux réponses. Parce que c'est toujours important de s'arrêter et de s'intéresser réellement en profondeur aux questions que des multitudes se posent. Et avant de nous séparer la dernière fois, nous avons commencé à répondre à cette question à la lumière des Saintes Écritures. Cette question qui est la suivante. Avec tant de religions qui existent sur la terre et tant d'églises, et on en crée tous les jours, comment reconnaître une vraie église ou une bonne église? Et c'est vraiment une très bonne question. Parce qu'en ce moment-ci, beaucoup sont chez eux. Et ils veulent vraiment se joindre à une église ou à une assemblée ou à un groupe qui dit qu'il c'est le Seigneur et ils sont vraiment en train de se demander quel est vraiment le bon milieu. Donc cette question est vraiment une très bonne question, à savoir comment reconnaître une bonne église au milieu de toutes ces multitudes d'églises qui naissent comme des champignons, ajoutées, bien entendu, même aux anciennes églises. Avant de nous pencher dans les Saintes Écritures pour reconnaître ce que c'est qu'une bonne église, comme promis, je vais partager avec vous les déclarations de certaines églises. C'est vrai, parfois j'entends les gens dire que j'ai dit trop de vérités et que ce n'est pas bien. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, il n'y a que la vérité qui puisse rendre les hommes libres. Et la Bible dit également que la colère de Dieu se révèle du ciel contre tous ceux-là qui retiennent injustement la vérité captive. Donc la vérité ne doit pas être retenue captive. Lorsqu'il y a la vérité, il faut l'étaler en plein jour, afin que ceux-là qui sont à la recherche de la vérité puissent être éclairés, libérés et affranchis. Et ne soyez pas surpris de voir que pendant que je vais lire les déclarations que certaines religions soient citées, c'est juste pour soutenir ce que nous disons, parce que nous ne lançons pas des paroles en l'air. Il faut être prêt à soutenir tout ce qu'on dit. Par exemple, voici ce que disait un certain Estrad Taf Benson, qui est le 13e président de l'église mormone. L'église mormone, voici ce que le 13e président disait. Notre église n'est pas n'importe quelle église. Elle n'est pas seulement l'une des églises de la famille des églises chrétiennes. Elle est l'église, le royaume de Dieu, la seule véritable église sur toute la face de la terre. Il n'y a aucun salut en dehors de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Il faut savoir que l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, c'est le nom officiel de l'église des mormones. Et on peut lire cela à la page 670 des doctrines mormones, de leur livre Doctrines mormones. Donc voyons comment cette église dit qu'elle est la seule qui détient la vérité sur la terre. Et également, l'église mormone, selon toujours les déclarations, est la seule véritable église vivante sur la face de toute la terre, dans laquelle moi, le Seigneur, j'ai mis tout mon plaisir. Brigham Young, second président des mormones. Donc, il y a tellement de déclarations. Je prends juste quelques exemples comme ça en passant. Et nous allons voir ce que les témoins de Jéhovah vont dire. Et dans Watchtower, c'est l'organe officiel qui le publie chaque fois. C'est le 1er décembre 1928, à partir de la page 364. Voici ce qui est écrit. Et ce sont les témoins de Jéhovah. L'évangile du royaume a cessé d'être annoncé peu après la mort des apôtres. Il n'a été annoncé à nouveau qu'après 1918. Maintenant, écoutons ce qu'ils vont dire dans les livres du 1er avril 1919, page 6414. La société Watchtower est l'unique moyen utilisé par le Seigneur pour dispenser continuellement sa vérité depuis le commencement de la période de la moisson. Donc, cette organisation prétend que les livres est le seul et l'unique moyen utilisé par le Seigneur pour dispenser continuellement sa vérité sur la terre. Que c'est tellement grave. Depuis quand est-ce que Dieu va laisser la Bible de côté pour utiliser plutôt un livre écrit et produit par les hommes pour pouvoir répandre la vérité sur la terre? Et nous pouvons également lire ce qui est écrit dans les livres Watchtower du 1er juillet 1979, page 402. Il est écrit ceci. Considérez aussi le fait que l'organisation de Jéhovah, seule dans toute la terre, est dirigée par le Saint-Esprit de Dieu, qui est sa puissance. Nous voyons encore une déclaration. Cette organisation dit clairement que la religion est la seule sur toute la terre qui est dirigée par le Saint-Esprit. Nous venons de lire les mormones qui disaient qu'elle était la seule. Nous voyons ici les témoins de Jéhovah dit qu'ils sont également les seuls. Et il y a également un mouvement religieux qui a pour nom l'Église de Christ. Voici par exemple ce qui est écrit. Ainsi, en dehors de l'Église de Christ, personne ne peut être considéré comme un croyant véritable. Pasugo écrit en septembre-octobre 1981, page 9. Et également, nous pouvons lire, toujours dans ce livre de janvier 1976, page 9, « Chaque membre doit se soumettre à l'administration de l'Église de Christ s'il veut être sauvé. » Donc, selon eux, si quelqu'un veut être sauvé, il faut qu'il soit soumis à leur organisation, à leur administration. La Bible n'enseigne pas de telles choses, mes amis, que pour être sauvé, il faut se soumettre à une organisation religieuse. Et il y a également un mouvement religieux qu'on appelle l'Église internationale de Christ ou encore l'Église de Philadelphie. Voici ce qu'elle a déclaré. Il n'y a qu'une Église. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul royaume de Dieu. Et vous le trouverez chez nous. Ce message, nous pouvons le retrouver dans une cassette audio sur la Grande Commission. Et nous pouvons également lire ceci. Nous sommes le dernier espoir du monde. Personne ne va faire ce que nous faisons. Personne en dehors de nous n'est détenteur du message de vérité. Personne ne marche dans la vérité. Des hommes radicaux pour des temps radicaux. Mouvement de l'amour radical de Dieu. Conférence mondiale de Manille. C'était en août 1994. Nous voyons une déclaration de cette église qui a pour nom l'Église internationale de Christ ou l'Église de Philadelphie. Et cette église a également déclaré: notre église est aujourd'hui la seule à détenir la vérité. Elle est l'église de Dieu. L'église de Philadelphie est la seule église à avoir conservé la loi de Dieu dans ces temps de la fin. The Philadelphia Trumpet, de mars 1994, page 5. Et quant à l'église catholique romaine, voici ce qu'elle a déclaré. Par institution divine, les successeurs de Pierre et des autres apôtres sont les seuls à enseigner exclusivement la vraie foi, revêtue de l'autorité de Christ. Concile des Vatican, vol 2. Et c'est la page 433, en 1984. Et cette église catholique romaine pouvait également déclarer: cette soumission loyale de la volonté et de l'intelligence doit être faite d'une manière toute spéciale envers l'autorité magistrale et authentique du pontife de Rome. Même quand il ne parle pas ex cathedra, en vérité, cette autorité magistrale suprême doit être reconnue et respectée. On doit sincèrement adhérer aux décisions prises par le pape et se conformer à sa volonté et à ses intentions manifestes. Concile du Vatican II, vol 1, page 369. Et le pape Boniface VIII a déclaré ceci: il n'y a qu'une seule église catholique et apostolique. Hors de cette église, il n'y a point de salut. Il est donc absolument nécessaire pour toute créature qui veut être sauvée d'être soumise au pontife de Rome. Bulle sur l'infaillibilité pontificale, unam sanctam. Le concile Vatican II a déclaré: ce saint concile enseigne que l'appartenance à l'église catholique est nécessaire pour obtenir le salut. Donc nous voyons que à la page 364-365, ce sont des exemples comme ça en passant, nous voyons presque toutes les organisations religieuses qui existent sur terre prétendre être les seules qui détiennent la vérité. Ce mouvement religieux où il faut à tout prix adhérer pour pouvoir obtenir le salut, pour être sauvé. Mesdames et messieurs, j'ai pris juste quelques exemples en passant, il y en a tellement. C'était juste pour vous dire que ce n'est pas parce qu'une organisation religieuse prétend être la vraie église ou la seule ou l'unique qui détient la vérité que c'est vrai. C'est pour cette raison que nous avons décidé, à la lumière des Saintes Écritures, de vous montrer ce que c'est qu'une vraie église, comment reconnaître une bonne église. Donc ne vous fiez pas aux déclarations des uns et des autres. Chaque mouvement religieux qui naît prétend être l'autre seule qui détient la vérité. Et si vous voulez, vous pouvez entrer en contact avec nous. Il y a la documentation pour pouvoir lire ce que tous les autres ont déclaré dans le même sens, parce qu'il y en a tellement, il y en a tellement. Et nous allons dire déjà que pour reconnaître une bonne église, une église biblique, c'est une église où la notion du salut est clairement prêchée et expliquée. Et le salut ne s'obtient pas dans une religion. C'est en Christ Jésus seul qui a le salut. Donc ce n'est pas parce qu'on appartient à une religion qu'on est sauvé. La Bible n'enseigne cela nulle part. L'apôtre Pierre, lorsqu'on lui a demandé le jour de la Pentecôte: homme frère, que ferons-nous pour être sauvés? Il a dit: repentez-vous, acceptez le Seigneur Jésus-Christ et soyez baptisés pour être sauvés. Il n'a pas dit appartenez à tel mouvement religieux. Donc lorsque les gens vous prêchent l'évangile en vous parlant de leur religion, chassez-les de votre maison, de votre porte, parce que ce n'est pas du tout cela l'évangile. Les gens, parfois, en prêchant l'évangile, cherchent tout simplement des adeptes ou des clients, entre guillemets. Et comme je le disais tantôt, une église qui est biblique doit être suffisamment claire en ce qui concerne le salut. Le salut s'obtient uniquement par la foi en Jésus-Christ. Il faut vraiment le savoir. Et il y a beaucoup de versets dans la Bible qui prouvent cela. Par rapport au salut, on n'est pas sauvé en pratiquant les bonnes œuvres. Et pourtant, il y a beaucoup de religions qui passent leur temps à marcher sous le soleil, distribuer des toutes sortes de brochures aux gens pour attirer les gens dans les religions, parce qu'on les a fait croire qu'en le faisant, le dernier jour, ils obtiendront la faveur de Dieu pour pouvoir avoir le salut et la vie éternelle. C'est un mensonge du diable. Ce n'est pas par les œuvres que nous pouvons être sauvés. La Bible est suffisamment claire. Le frère Yannick va chercher Ephésiens 2, à partir du verset 8 au verset 10 par rapport à cela. Et pendant qu'il va chercher cette portion de Saintes Écritures, il y a également dans certaines religions où on prêche un purgatoire imaginaire. Ce sont des fables. Abandonnez toutes ces conneries. Ça n'existe pas, le purgatoire. Qu'après votre mort, on pourra prier pour vous, pour changer votre destinée. Ça, ce sont des fables. Vous deviez tout simplement reconnaître que vous êtes un pécheur ou une pécheresse et que Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Et en ayant foi à son sacrifice, par son sang versé, la Bible nous dit que son sang versé vous purifie de toute iniquité. Et ainsi, vous pouvez obtenir gratuitement le salut par la foi en Jésus-Christ. Un point, c'est tout. Et c'est ça qui est la vérité. Frère Yannick, qu'est-ce qui est écrit dans Ephésiens, chapitre 2, à partir du verset 8 au verset 10?
Il est écrit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. » C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Parole du Seigneur.
Amen. Vous êtes invités, mesdames et messieurs, à avoir un stylo et sur quoi noter. Après, même, vous pouvez prendre tout votre temps pour vérifier. Le plus important, c'est que votre foi soit fondée sur des saintes écritures. La Bible nous dit clairement que ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Personne ne pourra un jour se glorifier en disant que j'ai travaillé pour obtenir mon salut. La Bible nous dit que c'est un don gratuit de Dieu. Et que Dieu a déjà préparé des bonnes œuvres. Donc, les chrétiens authentiques pratiquent les bonnes œuvres, non pour être sauvés, mais la Bible dit que ces bonnes œuvres ont été préparées d'avance pour ceux-là qui seront sauvés. Donc les gens ne sont pas sauvés parce qu'ils ont trop travaillé pour leur religion. Enlevez cela de vos têtes, mesdames et messieurs. Et par rapport à la mort ou la vie après la mort, je disais tantôt que le purgatoire, c'est tout simplement imaginé et mensonger. Si nous lisons par exemple, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 10, ou bien Hébreux 9, le verset 27. Frère Yannick, tu peux chercher Hébreux 9, le verset 27. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 10, il est clairement écrit que nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ afin qu'il soit rendu à chacun ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Donc, dès que quelqu'un meurt, il doit rendre compte de la manière dont il a vécu sur la terre. Il n'y a pas une prière qui peut changer sa destination ou sa destinée. Qu'est-ce que Hébreux 9, le verset 27 nous dit, frère Yannick, si tu as la part, tu peux lire pour nous tous. Hébreux 9, verset 27.
Il est écrit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Je continue.
Ça va? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc la Bible ne connaît pas des purgatoires et encore moins même des réincarnations qu'on nous balance par-ci par-là dans des sectes pernicieuses. Donc toutes ces choses doivent être suffisamment claires et enseignées dans des bonnes églises. Et Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11 au verset 15, nous dit clairement qu'il y aura un jugement dernier. Et que ceux-là qui n'ont pas accepté le Christ vont être jetés dans les temps ardents de feu. C'est ce qui est clairement écrit. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11 au verset 15. Frère Yannick, que tu peux lire juste le verset 15. Qu'est-ce qui est écrit?
Il est écrit, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. »
Amen. Comment reconnaître une bonne église au milieu de toutes les multitudes d'églises qui existent sur la terre et qui prétendent toutes être les seules à détenir la vérité? Une église biblique, c'est une église où la discipline biblique est également exercée. Écoutez très bien. Parce que nous sommes dans un monde où il y a tellement la confusion. On ne sait plus qui fait quoi et qui est qui. On ne sait plus qui est chrétien. Tout le monde prétend être chrétien. Et il arrive malheureusement que parfois, même dans certaines églises, on n'arrive pas à distinguer les chrétiens des païens. Parce que parfois, tout ce qui se passe dans le monde se passe également dans les églises, le mensonge, le vol, les coups bas, les calomnies, le tribalisme, ce n'est pas normal. Une église biblique, c'est une église où la discipline biblique est exercée. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 5, les deux premiers versets. Frère Yannick, si tu trouves cette portion de Sainte Écriture, tu peux lire pour nous tous.
Il est écrit.
1 Corinthiens chapitre 5, les deux premiers versets.
Il est écrit, on entend généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous.
Amen. La Bible nous dit clairement que une église qui veut être conforme aux Saintes Écritures ne doit pas tolérer le mal. Lorsque les gens ne sont pas prêts à se repentir sincèrement et abandonner le mal, la Bible nous dit clairement qu'ils doivent être ôtés de l'assemblée afin qu'ils ne contaminent pas les autres et surtout qu'ils ne soient pas ces personnes-là qui vont salir l'image du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, l'image du Seigneur Jésus-Christ est vraiment bafouée, salie. L'Église du Seigneur a carrément perdu sa notoriété parce que beaucoup de gens qui prétendent être des chrétiens vivent n'importe comment, sont plongés dans toutes sortes de pratiques qui n'honorent pas Dieu et ils sont à l'église tranquillement assis, parfois au premier banc, ce qui est tout simplement regrettable. Et si les gens viennent à l'église ou à l'assemblée parce qu'ils ont l'intention d'écouter la bonne parole du Seigneur et en retour se conformer aux Saintes Écritures, accepter le Seigneur pour être sauvé, toutes ces personnes sont les bienvenues. Mais l'église, l'assemblée n'est pas un lieu de tourisme. Non. L'église n'est pas un lieu de tourisme où les gens viennent se promener. Si les gens viennent et ne sont pas prêts à se repentir, à se donner au Seigneur, les disciples du Seigneur, en vérité, ils n'ont pas les places à l'assemblée. C'est ce que la Bible enseigne. Et si les gens vivent expressément dans le désordre, le péché, le mal, ils doivent être chassés s'ils ne sont pas prêts à se repentir, abandonner pour devenir des exemples et des modèles. Voilà comment reconnaître, mesdames et messieurs, une bonne église. Donc, si vous êtes dans un milieu où il y a la confusion, où les païens sont mélangés avec des chrétiens, où on ne sait pas qui est qui fait quoi, où on trouve toutes sortes de choses qu'on devait trouver plutôt dans le monde, dans l'église, franchement, vous devez sortir de ce genre de milieu si vous aimez vraiment le Seigneur. Parce que l'église doit faire la différence. L'église doit montrer l'exemple au monde, en intégrité, en morale, à tous les niveaux, en vérité même et en justice. L'apôtre Paul pouvait dire que l'église est l'appui et la colonne de la vérité. L'appui et la colonne de la vérité. Donc si les hommes ont besoin de trouver la vérité, c'est vers l'église que le monde doit vraiment se tourner. Et si l'église est dans le mensonge, le mal, le péché, où allons-nous, mesdames et messieurs? Nous sommes toujours en train de répondre à cette question. Comment reconnaître une bonne église à la lumière des Saintes Écritures? Déjà, la dernière fois, j'ai partagé avec vous que la véritable église, c'est aussi cette église où Christ, en tant que fondateur, bâtisseur, chef, est honoré, exalté, magnifié et adoré. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui disent qu'ils servent le Seigneur, mais malheureusement, n'adorent pas Jésus. Et je me demande bien si c'est Jésus qui est vraiment le chef et la tête de l'organisation. Et nous avons vu que la Bible nous parle de l'église de Jésus-Christ. La Bible nous parle aussi de l'église de Dieu. Et quand la Bible parle de cela, la Bible ne distingue pas l'église de Dieu et l'église de Jésus-Christ. C'est la même chose. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Nous avons lu cela la dernière fois. Et nous avons également lu les versets bibliques qui confirmaient cela. Nous n'allons pas y revenir. La véritable église, c'est aussi cette église où uniquement, uniquement, Jésus-Christ est honoré. Je dis bien uniquement. Parce que dans beaucoup des milieux religieux, on honore beaucoup de choses. On honore par exemple les statues, on honore les saints, parfois on honore même les hommes de Dieu. Il y a beaucoup d'églises où les hommes de Dieu ont les posters géants affichés sur le mur de l'église. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Il y a des églises où des hommes de Dieu sont considérés comme des mégastars, des superstars. Lorsqu'ils entrent, tout le monde se lève, on les acclame, on déroule le tapis rouge. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui est honoré ou c'est finalement l'homme? Il y a des églises où on peut retrouver des trônes. Là devant, il y a une rangée avec des chaises spéciales. le fondateur ou le chef est assis dessus comme un roi, comment est-ce que dans une église, on peut trouver des trônes où les hommes sont assis dessus, pendant que les simples chrétiens sont assis sur des chaises qui le font mal aux fesses? De l'autre côté, il y a quelqu'un qui est sur un trône lambouré avec le ventilateur qui tourne pendant que les autres sont en train de transpirer. Ce n'est pas du tout normal. L'église du Seigneur Jésus-Christ ne doit pas ressembler à cela. Nous allons, comme cela, lire quelques portions de Saintes Écritures pour montrer que uniquement le Seigneur Jésus-Christ doit être adoré et honoré. Si nous lisons dans Exode 20, à partir du verset 3 au verset 6, frère Yannick, pendant que tu vas chercher Exode 20, à partir du verset 3 au verset 6, je vais lire Colossiens chapitre 1, à partir du verset 18 au verset 19. Jésus est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus doit être en tout le premier, c'est-à-dire en tête. Verset 19, car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui. Verset 17, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Donc nous voyons clairement, la Bible nous dit que Jésus-Christ est la tête, et il doit être le premier en tout. Celui-là qui doit être honoré, exalté. C'est autour de Christ que les gens doivent s'assembler, et rien d'autre, et aucune autre personne. Qu'est-ce que Exode 20 nous dit à partir du verset 3 au verset 6, frère Yannick?
Il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen.
Amen. Dieu est suffisamment clair. Il est un Dieu jaloux. Lorsque vous laissez Dieu pour honorer une autre personne, pour honorer les images, pour honorer les statues, Dieu dit qu'il va punir cela. Donc si vous êtes dans un endroit, dans un milieu où on pratique ces choses, franchement, repentez-vous et abandonnez. Cessez de faire cela. Vous n'avez pas à demeurer dans ce genre d'endroit où, au lieu d'adorer uniquement le Seigneur, on se prosterne plutôt devant toute autre chose, devant les statues et autres. Dieu dit qu'il est jaloux. C'est à lui seul que l'adoration, les honneurs sont dus. Que la personne qui a vraiment des oreilles pour entendre, entende. Et je vais lire au moins un verset pour ceux qui doutent, à savoir que Jésus-Christ est Dieu et qu'il mérite l'adoration en tout temps et en tout lieu. Par exemple, dans Matthieu 28, je prends un verset comme cela, en passant, il y en a tellement dans les Saintes Écritures. Dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 16, il est écrit ceci, « Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. » Verset 17, « Quand ils le virent, ils l'adorèrent. » La Bible nous dit que les disciples du Seigneur l'ont adoré avant même qu'il monte dans les cieux. Alors maintenant qu'il est dans les cieux en tant que maître suprême de l'univers, pourquoi est-ce qu'il ne doit pas être adoré dans son église, si c'est vraiment son église? Comment reconnaître une bonne église au milieu de toutes ces multitudes d'églises et des religions qui nous entourent? Une église biblique, c'est une église où on ne prêche pas un autre évangile. La Bible nous dit clairement qu'il y a beaucoup d'évangiles. Et pour confirmer qu'il y a beaucoup d'évangiles, frère Yannick, que si tu es dans Galates chapitre 1, les versets 8 et 9, oui, il y a plusieurs évangiles en dehors de l'évangile biblique, de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul va nous mettre en garde dans Galates chapitre 1, les versets 8 et 9. Qu'est-ce qui est écrit là?
Il est écrit, si un ange du ciel annonce un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen.
Amen. L'apôtre Paul nous dit clairement qu'il y a un autre évangile. Et si quelqu'un vous prêche plutôt un autre évangile qui n'est pas l'évangile biblique, que cette personne soit maudite. Donc, faites attention. Il faut être sûr que l'évangile que vous écoutez dans votre milieu est vraiment l'évangile biblique. Et nous allons prendre quelques exemples pour voir ce que la Bible peut appeler un autre évangile. Par exemple, il y a l'évangile de la prospérité ou la cupidité. Pousse certains leaders religieux à trop parler de l'argent et c'est ainsi qu'ils arnaquent et abusent les chrétiens mal affermis. Beaucoup de gens ont été tellement escroqués, beaucoup ont été ruinés à cause de la religion. Si vous êtes dans un milieu religieux où tout tourne autour de l'argent, où on invente toutes sortes de choses pour enlever de l'argent de vos poches, vous devez sortir, mesdames et messieurs, parce que c'est un autre évangile. Lorsqu'on dit « Amenez telle somme, on va prier pour vous et Dieu va multiplier », c'est de la sorcellerie. C'est un autre évangile, mesdames et messieurs. Et c'est la cupidité qui pousse certaines personnes à prêcher ce genre d'évangile parce qu'ils veulent s'enrichir. Et ils utilisent la Bible pour manipuler les âmes qui sont mal affermies. Par exemple, dans Éphésiens, chapitre 5, le verset 3, Éphésiens chapitre 5, le verset 3, pendant que Frère Yannick, tu vas chercher cette portion de l'Écriture, je vais chercher 1 Pierre chapitre 5, à partir du premier verset et verset 3. Tu peux d'abord lire Éphésiens chapitre 5, le verset 3.
Il est écrit que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Amen.
Amen. La Bible nous dit que la cupidité ne soit même pas nommée, qu'on n'entende même pas, parce que c'est ainsi qu'il convient aux saints. Les saints ici, ce sont tout simplement les chrétiens, nés de Dieu. La cupidité, malheureusement, dans beaucoup de milieux religieux, on passe beaucoup plus de temps à parler des offrandes, de l'argent, que de prêcher le véritable évangile. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Ne vous laissez plus dépouiller dans des églises, dans des dénominations, mesdames et messieurs. La Bible nous dit l'amour de l'argent. On ne doit même pas entendre cela au milieu des enfants de Dieu. Et quand ça devient des enseignements officiels des systèmes religieux, c'est qu'il y a un problème. C'est déjà un autre évangile. Un autre évangile, c'est aussi les miracles. Mais avant les miracles, j'ai dit tout à l'heure que je devais lire dans 1 Pierre, chapitre 5. Oui, la première lettre de Pierre, chapitre 5, à partir du premier verset au verset 3. Écoutons attentivement ce que l'apôtre Pierre va dire dans sa première lettre, chapitre 5. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Verset 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Amen. Nous voyons ici l'apôtre Pierre qui dit que les dirigeants ne doivent pas travailler à cause de l'argent. Malheureusement, nous voyons que beaucoup prêchent l'évangile ou se déclarent hommes de Dieu à cause de l'argent qu'ils vont gagner. Ce n'est pas du tout normal. L'apôtre Pierre ira jusqu'à dire qu'il ne faut pas également dominer sur les chrétiens. Il y a également beaucoup de leaders spirituels qui sont des dominateurs. Ils dominent sur le troupeau de Dieu. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'un pasteur dit aux gens, par exemple, les femmes d'autrui, de venir chez eux pour faire le ménage, pour préparer pour eux, et c'est ainsi que parfois, certaines femmes n'ont même plus du tout le temps pour les maisons, pour les maris qui sont en train de servir le pasteur ou l'homme de Dieu, c'est de la domination. Beaucoup utilisent les positions d'homme de Dieu ou les titres de pasteur et autres pour pouvoir dominer les hommes. Ce n'est pas du tout normal. Si vous êtes dans un milieu où votre leader spirituel est un gourou, un dominateur, quelqu'un qui parle trop de l'argent, qui vous escroque, qui vous arnaque, ce n'est pas du tout une bonne église, mesdames et messieurs, à la lumière des saintes écritures. Je disais également que le constat est clair. Dans beaucoup de milieux religieux, on parle tellement des miracles. Parce que beaucoup se sont rendus compte que l'homme aime les miracles. Beaucoup ne veulent pas croire à l'évangile simple que l'on les présente. Et beaucoup de leaders religieux, des fondateurs de mouvements religieux ayant compris cela, vous n'avez qu'à voir les chaînes dites chaînes chrétiennes où on ne parle que des miracles matin, midi, soir. Parce que ces choses attirent le monde. Mesdames et messieurs, si vous êtes dans un milieu où on ne parle que des miracles, où on ne prêche que le miracle, où on ne fait que la publicité du miracle, franchement, ce n'est pas l'évangile de la Bible. Laissez-moi vous dire que Jésus-Christ, plus que toute autre personne, a fait tellement de miracles sur la terre. Mais, il n'a jamais fait la publicité des miracles. Il n'a jamais dit, venez chez nous, venez me voir, je veux faire des miracles. Malheureusement, parfois, lorsque beaucoup veulent faire des campagnes d'évangélisation, sur les affiches, ils présentent toujours les miracles spectaculaires de tout genre pour pouvoir appâter les gens. Et parfois, ça continue, même dans les assemblées, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Les apôtres ont également fait beaucoup de miracles. Mais vous ne verrez nulle part, ni l'apôtre Pierre, ni l'apôtre Jean, ni l'apôtre Paul prêcher les miracles en disant, venez, je vais faire un miracle pour vous, venez me voir si vous avez besoin d'un miracle. Non, ils prêchaient tout simplement le message du salut, l'évangile du salut. Et pendant que les gens écoutaient et avaient foi, maintenant les promesses du Seigneur s'accomplissaient. Parce que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc les miracles accompagnent tout simplement ceux qui auront cru. Donc les vrais chrétiens ne poursuivent pas les miracles, mais les miracles les accompagnent, selon les déclarations du Seigneur. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours à l'écoute de l'heure de la vérité. Si vous venez de vous connecter, vous écoutez l'heure de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.
Amen.
Une autre église qui n'est pas l'église de Dieu ou bien qui n'est pas une bonne église, c'est cette église où on prêche la division des familles. Je connais des familles qui ont été divisées, brisées, détruites. Tout simplement parce que on les a traités de sorciers, de sorcières. Lorsque vous allez dans un milieu et qu'on vous dit que parce que votre père n'a pas cru, votre mère n'a pas cru, ce sont des sorciers, vous deviez vous séparer, vous deviez même les chasser de chez vous. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ ni les apôtres, ils n'ont jamais prêché ce genre d'évangile. Jésus-Christ n'est pas venu pour briser les familles, pour séparer les couples. Certains vont jusqu'à dire, ton mari parce qu'il n'a pas cru, c'est un sorcier. Ta femme parce qu'elle n'a pas cru, c'est une sorcière. Et c'est ainsi que les familles sont bouleversées. C'est un autre évangile. Parfois, on va jusqu'à traiter les gens des démons, tout simplement parce qu'ils n'ont pas cru. Jésus n'a jamais prêché ce genre d'évangile, ni les apôtres. Donc, si vous êtes dans un milieu où on vous fait ce genre de langage, que fuyez vos familles, fuyez vos frères et sœurs, fuyez votre mari, votre femme, ce sont des démons parce qu'ils n'ont pas cru, c'est un évangile diabolique. Sortez de ces milieux en courant. Mesdames et messieurs, vous écoutez la vérité. Restez tout simplement à l'écoute. Mesdames et messieurs, vous tous qui êtes en contact avec nous, vous êtes à l'écoute de l'heure de la vérité. Le temps est contre nous. Nous sommes tout simplement en train de répondre à cette question. Au milieu de toutes ces multitudes de religions et d'églises qui naissent comme des champignons, comment reconnaître une bonne église? Une bonne église, selon les Saintes Écritures, c'est aussi cette église où on prêche et on met l'accent sur la sanctification. C'est très important. Je dis bien une église qui est conforme aux Saintes Écritures, c'est une église ou une assemblée où on prêche et on met l'accent sur la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? C'est le fait, tout simplement, de faire les efforts jour après jour, d'abandonner le péché sous toutes ses formes et de se purifier jour après jour. Et c'est ce que nous allons lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3 au verset 5. Frère Yannick, tu vas chercher 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3 au verset 5. Pendant que tu vas chercher cette portion sans écriture, je vais aussi chercher Hébreux 12, le verset 14. Hébreux 12, verset 14. Tu peux lire pour nous tous 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3 au verset 5.
Il est écrit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Amen.
Amen. La Bible nous dit clairement que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Malheureusement, parfois, beaucoup de gens peuvent se retrouver dans des milieux où on les parle des choses qui vont les amener à avoir tous les regards fixés sur les choses de la terre, les vanités de la terre. On ne les amène pas à se sanctifier jour après jour, à renoncer à toutes sortes de convoitises passionnées qui font la guerre à l'âme. Dans Hébreux 12, le verset 14, écoutons ce que ce verset va vraiment nous dire. C'est capital. Hébreux 12, le verset 14. Qu'est-ce qui est écrit là, frère Yannick?
Il est écrit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Amen. La Bible nous dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc, ce n'est pas la sanctification que nous sommes appelés à voir Dieu au quotidien, à agir dans nos vies. Sachez que si vous êtes dans un milieu où on ne vous encourage pas à abandonner le péché, vous pouvez même voir le diable manipuler vos vies. Vous pouvez vivre dans la précarité, tout simplement parce que vous ne voyez pas Dieu agir dans vos vies. Mais lorsque vous commencez à faire les efforts de marcher dans l'honnêteté, dans la sainteté, vous allez voir Dieu dans vos affaires, dans vos activités. Et bien entendu, même si vous mourrez, vous êtes sûr également de voir Dieu, parce que c'est un Dieu très, très, très saint. Et il dit que nous devons aussi être saints comme lui-même, il est saint. Donc une assemblée biblique doit insister sur la sanctification. Et surtout parce que Jésus revient chercher une église qui est sainte, glorieuse, sans tache, ni ride, irréprochable. Et une église biblique, c'est aussi cette église où l'opportunité est donnée à tous les chrétiens de s'exprimer. Écoutez très bien, une église biblique, c'est cette église où l'opportunité est donnée à tous les chrétiens de s'exprimer. Malheureusement, le constat est clair. Dans beaucoup d'églises, il n'y a que le pasteur et quelques privilégiés qui prêchent. Beaucoup sont là comme des spectateurs pendant des années. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Chaque membre de l'église, de l'assemblée, peut s'exprimer si ce membre a vraiment l'Esprit de Dieu, parce qu'à tout moment, Dieu peut mettre quelque chose dans son cœur pour l'édification de l'Église. Il y a tellement de versets qui confirment cela. Si nous lisons par exemple Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 20 au verset 22. Et frère Yannick, pendant que tu vas chercher Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 20 au verset 22, je vais chercher 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 26. Est-ce que tu as trouvé cette portion des Écritures? Tu peux lire pour nous tous. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 20 au verset 22.
Il est écrit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen.
Amen. La Bible nous dit ici que les chrétiens forment l'habitation de Dieu en esprit. Donc, Dieu habite en chaque chrétien. Et c'est ainsi que l'Esprit de Dieu qui est en chaque chrétien peut également se manifester par des dons spirituels à l'Église. Ce qui revient à dire qu'une assemblée biblique, c'est une assemblée où tous les membres sont dynamiques, où chaque membre est actif. Donc, il n'y a pas de spectateur dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, dans l'assemblée du Seigneur. Ce n'est pas seulement un homme qui doit parler, qui doit prêcher du 1er au 31. Et 1 Pierre chapitre 2, le verset 5, si tu trouves cette portion de l'Écriture, tu vas lire. Après, je vais lire 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Qu'est-ce que 1 Pierre chapitre 2, le verset 5 va nous dire?
Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen.
Amen. La Bible nous dit que, en fait, la véritable assemblée, selon la parole de Dieu, la véritable église, ce ne sont pas les bâtiments, ce sont les chrétiens eux-mêmes comme des pierres vivantes qui forment la véritable église du Seigneur Jésus-Christ. Et toujours dans 1 Pierre chapitre 2, cette fois-ci, le verset 9 nous dit ceci: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Quand la Bible nous dit clairement que tous les chrétiens, désormais, sont des sacrificateurs. Donc, il n'y a plus seulement une catégorie de personnes, une classe spéciale pour servir. Tous les chrétiens forment un sacerdoce royal. Donc, ils sont tous appelés à rendre ministère dans une assemblée. Même s'ils n'ont pas tous les mêmes dons, chacun a un rôle à jouer. Et l'opportunité doit être donnée à chacun de pouvoir s'exprimer. Que ce soit par une exhortation, un chant, un cantique, que sais-je encore. Et 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26 va nous dire ceci. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Amen. Donc la Bible nous dit que lorsque les chrétiens s'assemblent, il peut arriver que un membre ait un cantique, une exhortation, une langue. En fait, c'est tout simplement pour dire que l'opportunité doit être donnée à chaque membre de s'exprimer. Donc, si vous êtes dans une assemblée où vous êtes étouffé, alors que vous avez des dons spirituels à manifester parce que l'occasion ne vous est pas donnée, franchement, si vous demeurez dans ces conditions, vous allez finir par mourir spirituellement et même tuer le don que Dieu a mis en vous. Parce que le don que Dieu vous a donné, c'est pour que cela s'exprime, pour édifier le corps de Christ, pour édifier les uns et les autres. Et lorsqu'un don n'est pas exploité, ce don meurt. Mesdames et messieurs, compte tenu du temps, le Seigneur le permettant, pouvons continuer sur cette même lancée prochainement. Frère Yannick, des moments à l'autre, nous allons nous séparer. Est-ce que tu as quelque chose à dire?
Je veux tout simplement encourager tous ceux qui sont en train de nous écouter vraiment de bien tenir, de tenir bon sur ce chemin de la vérité, car c'est ce chemin qui a franchi. Il n'y a point d'autre chemin qui puisse affranchir en dehors du chemin de la vérité. Merci, parce que le Seigneur vous soutiendra et vous comblera et vous aidera à suivre vraiment ce chemin jusqu'au bout. Amen.
Amen. Donc, mesdames et messieurs, vous tous qui êtes en train de chercher une bonne église, ne vous précipitez pas, ne vous fiez pas à toutes les publicités qu'on fait, qu'on chante. Priez, priez, priez le Seigneur. Et pendant que vous êtes en train de prier, observez tout autour de vous. Si il y a une assemblée qui ne remplit pas ses critères, ne vous aventurez pas, ne vous aventurez pas, prenez tout votre temps. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Je crois que au travers de ces éclaircissements, beaucoup finiront par être vraiment édifiés, à savoir comment reconnaître une bonne église. Pour vous servir, juste à mes côtés, le frère Yannick Nankep, quant à moi, je demeure votre humble serviteur. À bientôt, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. Pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros des 00237 qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit N-J-E-N-D-J-I. rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était l'heure de la vérité, l'heure de la vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais, jamais. Le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs.